Et merci à vous d'avoir choisi Europe 1. Il est 7h.
C'est 30 secondes par client. Des séances de forte affluence, on reçoit 700 personnes en 20 minutes. On pensait faire un été vraiment, disons-le, formidable. C'est dur à encaisser.
Ils ont choisi de contourner le pass sanitaire. Certains gérants de salles de spectacle ou de cinéma préfèrent limiter leur jauge pour éviter d'avoir à contrôler les spectateurs. Plus de 21 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. La quatrième vague est déjà là. On en parle avec l'infectiologue François Bricaire. Il sera notre invité dans ce journal. Nous irons aussi au Royaume-Uni, où les obligations de quarantaine pour les cas contacts explosent et menacent la reprise de l'économie. Et puis c'est dans l'actualité, en plein scandale Pegasus, le gouvernement en France lance un dispositif d'alerte pour les entreprises victimes de cyberattaques. À suivre après ce journal, l'éclairage éco de Maud Descamps et le marché immobilier qui se porte toujours au mieux. Votre conseil santé avec le docteur Brigitte Millot. Et puis un nouveau portrait olympique, la quête d'or de Marie-Josée Pérec, racontée comme chaque matin par Corinne Boulot sur Europe 1. Très bon réveil, il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h. Bonjour Émilie Dez.
Bonjour Théo, bonjour à tous. La quatrième vague est là, nous devons réagir, martèle Jean Castex. Pour freiner la reprise de l'épidémie, le port du masque en extérieur redevient obligatoire aujourd'hui dans plusieurs nouveaux départements, en Meurthe-et-Moselle, dans l'Hérault ou en Vendée. Pour maîtriser la flambée des nouveaux cas, le pass sanitaire est par ailleurs désormais obligatoire dans les lieux de loisirs et les lieux culturels accueillant plus de 50 personnes. Mais certaines salles de spectacle et de cinéma ont fait le choix d'abaisser leur jauge pour éviter de contrôler le public, Laura Taouchanoff.
Dans certaines salles, il n'y a pas eu de débat. Hors de question de contrôler les spectateurs à l'entrée. Le choix deviendrait presque politique au Théâtre du Grand Rond à Toulouse. Il peut normalement accueillir 120 personnes. Éric Vanel est l'un des associés.
Ce qu'on nous demande là, ce n'est pas quelque chose de technique. C'est quelque chose de politiquement qui a un sens profond. Et dans une démocratie, il nous semble qu'il faut prendre le temps d'en parler. Ça ne peut pas être une perte de temps. Ça n'a absolument rien à voir avec une position pour ou contre le vaccin.
Financièrement, ce théâtre toulousain pourra tenir tout l'été avec cette jauge réduite à 49 spectateurs. C'est de toute façon une période plus calme. En revanche, pour le Carrousel, un gros complexe de 8 salles de cinéma à Verdun, contourner le pass sanitaire va coûter très cher, mais pour Brian Langrand, le directeur, ces mesures sont tout simplement inapplicables.
C'est 30 secondes par client. Des séances de forte affluence, on reçoit 700 personnes en 20 minutes. On pensait faire un été vraiment, disons-le, formidable. C'est dur à encaisser. Ça fait plus d'une semaine que je pense à ça.
Une décision d'autant plus difficile à prendre pour cet exploitant, alors que de nombreux blockbusters sortent cet été, Kaamelott ou Fast and Furious, et ils auraient attiré bien plus de 49 spectateurs à chaque séance.
Alors, à Taouchana, pour Europe 1.
Le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire qui est examiné en ce moment même par le Parlement.
Les débats houleux vont se poursuivre ce matin à l'Assemblée sur le millier d'amendements déposés. Une centaine seulement a été examinée hier dans la soirée. La seule modification validée concerne le pass sanitaire pour les déplacements internationaux. Il ne sera demandé qu'aux plus de 12 ans.
Pass sanitaire, vous l'aurez compris, qui est loin de faire l'unanimité. On accueille à présent François Bricaire. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes infectiologue et membre de l'Académie de médecine. Le Premier ministre Jean Castex a fait un point hier midi sur la situation actuelle de l'équipe de l'épidémie. Il n'a pas annoncé de nouvelles mesures de freinage malgré la flambée des cas, près de 21 500 nouvelles contaminations en 24 heures. Est-ce que ce pass sanitaire tel qu'il est défini aujourd'hui peut suffire, selon vous, à contenir cette quatrième vague ?
Non, écoutez, je ne pense pas. Quand on est dans une situation d'ascension du nombre de cas, et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est assez difficile de mettre en place des mesures qui permettent d'arrêter, qui permettent de modifier, de freiner, comme on l'a vu sur les précédentes poussées. C'est éventuellement possible, mais arrêter de façon absolue, non, ça me paraît très, très difficile. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut, bien sûr, baisser les bras. Alors, les mesures qui sont prises, il faut, je pense, essayer de bien distinguer ce qui revient à la politique et ce qui revient vraiment à la santé. On le voit bien dans les discussions. Pour ce qui concerne la santé, c'est ça mon problème. Je pense que ce qui est important, c'est de redire que plus on ira vite en matière de vaccination, plus on risquera de freiner mieux cette épidémie parce que on réduira le risque d'émergence de variants, parce que on permet à la population de se protéger davantage, d'éviter ou de réduire au moins la transmission.
Alors le rythme de la vaccination s'est accéléré. L'objectif de Jean Castex, c'est 50 millions de primo-vaccinés fin août. Est-ce qu'à ce rythme-là, est-ce qu'on peut espérer atteindre l'immunité collective nécessaire pour vaincre le virus ?
Bah, écoutez, les modélisations ont l'air de montrer, là, moi, je suis dans l'incapacité de pouvoir certifier que ce que les modélisations avancent sont exactes, mais je fais confiance aux modélisateurs. Il est sûr que je pense que, surtout, si les gens comprennent l'importance de se déplacer pour aller se faire vacciner, eh bien, à ce moment-là, on arrivera à vacciner plus vite, beaucoup mieux, et donc en plus grand nombre.
Une dernière question, François Bricaire. Le nombre de cas augmente, il a doublé en une semaine, mais les admissions en réanimation sont toujours à la baisse. Moins de 900 patients en réa à l'heure actuelle à l'échelle de toute la France. Est-ce qu'on s'inquiète finalement pas trop face à cette quatrième vague qui touche essentiellement les jeunes qui font des formes moins graves ?
Ben voilà, vous avez donné la réponse. Étant donné que le nombre de cas atteint des sujets qui sont en grande partie des sujets plus jeunes, qui font donc des formes soit asymptomatiques, soit plus bénignes, nécessite pas, et fort heureusement, de soins intensifs, voire même d'hospitalisation. Donc ça, c'était au moins une bonne nouvelle. Il faut rester prudent, parce qu'on ne sait jamais, étant donné que dans une ascension d'un phénomène épidémique, ça peut aller vers des populations qui sont alors plus fragiles et qui risquent, elles, d'être hospitalisées. Mais pour le moment, fort heureusement, les moyens de réanimation sont corrects.
Et c'est cette prudence qui dicte donc ce choix de détendre le pass sanitaire, débat en ce moment même au Parlement. Merci beaucoup François Bricaire, infectiologue et membre de l'Académie de médecine. Merci de nous avoir donné votre éclairage dans ce journal. Il est 7h06 sur Europe 1 et au Royaume-Uni. Les obligations de quarantaine pour les cas contacts explosent. Elles menacent, Émilie Dez, la reprise de l'économie.
Face au relâchement des restrictions et à la hausse des contaminations, de nombreux Britanniques ne peuvent plus se rendre au travail. Plusieurs secteurs sont durement affectés, notamment le secteur automobile, les transports publics et la restauration. Anaïs Cordoba.
Oui, 20% des employés dans la restauration au Royaume-Uni ne peuvent plus aller travailler car ils sont cas contact et doivent s'isoler. Cela a contraint des patrons de pubs et de restaurants à fermer temporairement leur établissement, comme Tom Kerridge, célèbre chef anglais étoilé au Michelin, qui témoigne à la radio.
Ces 10 derniers jours ont été un cauchemar. On a dû fermer un restaurant car trop d'employés ont dû s'isoler. Il y a tellement de petites entreprises et de personnes dans ce cas-là. Et j'ai deux chiens que je devais emmener chez le vétérinaire cette semaine, mais le cabinet n'est ouvert que pour les urgences car eux aussi manquent de personnel.
Samedi, une ligne du métro londonien a même été suspendue à cause d'une pénurie de personnel contraint de s'isoler. L'usine Nissan de Sunderland dans le nord de l'Angleterre a également dû ralentir sa production car des centaines d'employés cas contact sont en quarantaine. En tout, 1,7 million de Britanniques seraient en isolement actuellement. Cette obligation de quarantaine en cas d'exposition au virus sera levée pour les personnes vaccinées le 16 août prochain. Mais plus d'une douzaine d'organisations professionnelles implorent le gouvernement d'avancer cette échéance.
Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni.
Au volet judiciaire, c'est une première. Un collectif de 6 associations emmenées par Amnesty International et Human Rights Watch a saisi la justice française pour que cessent les contrôles aux faciès.
En janvier, ces associations avaient déjà mis en demeure le gouvernement pour qu'il engage des réformes structurelles et prenne des mesures concrètes, sans réponse jusqu'à ce jour. Elles ont donc décidé, les associations, de saisir le Conseil d'État. On y reviendra plus en détail dans le journal de 8h.
En plein scandale Pegasus, le gouvernement veut rassurer les entreprises victimes de cyberattaques.
Et des cyberattaques qui explosent ces dernières années en France et qui rendent les entreprises particulièrement vulnérables. Du coup, Clément Le Saffre, le gouvernement a lancé hier un nouveau dispositif d'alerte qui leur est dédié.
Oui, en fait, c'est un dispositif similaire à une alerte enlèvement. En cas d'incident majeur, l'ANSSI, l'Agence de cybersécurité de l'État, rédigera une courte notice pour résumer en des termes compréhensibles par tous la nature de l'incident, les risques qu'il induit et les mesures à prendre rapidement. Notice envoyée aux organisations patronales qui se chargeront ensuite de la relayer par mail à leurs centaines de milliers d'adhérents. Pour Christian Poyot, responsable du projet Côté MEDEF, les petits patrons ont besoin d'être accompagnés en matière de cybersécurité.
C'est vraiment, je pense, un outil de sécurisation. C'est-à-dire, j'ai des gens à côté de moi, j'ai une organisation, j'ai un système. Finalement, c'est une attaque comme une autre, comme peut l'être ma porte qui est forcée ou un sujet d'assurance. Voilà. Donc, action, pédagogie et sécurisation de l'ensemble du tissu économique.
Alors, l'idée n'est pas de multiplier les mails, mais plutôt d'alerter en cas d'incident majeur sur des logiciels très courants. Par exemple, une faille de sécurité de Windows. On compte 2 à 5 incidents de ce type par an. Des vulnérabilités dans lesquelles s'engouffrent les cybercriminels avec à la clé des dégâts informatiques considérables. L'objectif L'objectif de ce dispositif d'alerte est aussi de rappeler que des gestes simples, principalement des mises à jour de sécurité et des changements de mots de passe réguliers, eh bien ces réflexes permettent d'éviter 80% des cyberattaques.
Clément Le Saffre.
Il est 7h10 sur Europe 1 à l'étranger. Un vaste réseau d'escrocs piloté depuis Israël, démantelé par les enquêteurs spécialisés dans la grande délinquance financière.
Un réseau très organisé qui proposait des investissements frauduleux au diamant sur Internet. 27 personnes ont été mises en examen pour escroquerie en bande organisée, blanchiment du produit des escroqueries et association de malfaiteurs. Gladys Laffitte, en 3 ans, 1200 personnes ont été victimes de leurs agissements.
Et oui, c'est énorme, tout comme le préjudice total, 30 millions d'euros récoltés par ces escrocs très chevronnés. C'est d'abord un club de foot à Angers qui a été victime d'un faux virement. Et à partir de là, les enquêteurs ont découvert que les malfaiteurs qui se cachaient derrière étaient en fait spécialisés dans une autre escroquerie, les sites internet frauduleux. Ils proposaient aux particuliers de placer leur argent dans des diamants. Anne-Sophie Coulbois est la chef de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière.
Il y a aussi des gens qui vont vous rappeler, des pseudo commerciaux qui vont vous rappeler souvent de manière insistante pour vous expliquer à quel point c'est un bon investissement. Vous achetez un diamant que vous ne voyez pas ou que de manière virtuelle. Ces diamants sont stockés pour vous et sont censés prendre de la valeur. Or, au final, il n'y a pas de diamants ou des diamants de très mauvaise qualité par rapport à ceux que vous êtes censé acheter. Et ces diamants, en plus, ne prennent pas de valeur.
Alors, grâce notamment à la coopération internationale, les policiers ont pu remonter jusqu'à des Français et des Franco-Israéliens qui opéraient pour la plupart depuis Israël. Ils ont d'ailleurs retrouvé chez l'un d'eux, sous son lit, 27 kilos de diamants, 800 au total, de moins bonne qualité que celle vantée auprès des acheteurs. Certains pourront même être rendus aux victimes.
Gladys Laffitte pour Europe 1.
Et puis vous allez être nombreux à prendre la route ce week-end pour partir en vacances. Ce sera rouge dans le sens des départs samedi, orange dès demain sur tout le pays.
Et si vous faites une pause sur votre trajet, vous allez recevoir une jolie surprise à partir de demain. Et pendant tout l'été, 20 000 livres vont être distribués sur des aires d'autoroute. Une opération littéraire lancée par la fondation Vinci Autoroute. Les précisions de Nicolas Caro.
Après Eric Orsena et Olivier Rollin, c'est l'écrivaine Marie Desplechin qui parraine cette année l'opération littéraire des autoroutes. Elle a sélectionné une douzaine de titres, de Romain Gary à Françoise Sagan, en passant par Elena Ferrante, et deux romans jeunesse. Ils seront à disposition gratuitement, un par personne, dans certaines aires d'autoroute. Bernadette Moreau est la déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute.
Sur les espaces lecture, il y a des équipiers qui sont là pour vous guider dans le choix de vos lectures. Vous pourrez retrouver sur un panneau les notices de lecture qui ont été rédigées par Marie Desplechin, qui vous donnent envie de choisir l'un ou l'autre de ces livres.
L'idée, c'est de faire lire, bien sûr, mais c'est aussi un moyen d'inciter à la pause, Bernadette Moreau.
C'est aussi un des éléments importants de cette opération, c'est qu'on incite les vacanciers à s'arrêter pour choisir leurs livres, mais aussi pour prendre le temps de se reposer, ce qui est très important quand on prend l'autoroute et qu'on va faire un long trajet.
En tout, 20 000 livres seront offerts et demain à 11h, Marie Desplechin lancera l'opération sur l'aire de Chartres-Gazeville sur la 11.
Nicolas Caro.
Merci beaucoup, c'était le journal d'Émilie Dez, il est 7h13.